Good Morning Business, le grand entretien.
Notre invité, c'est Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. On a énormément de questions à vous poser, Thierry Breton. Vous êtes sous les feux de l'actualité sur tous les sujets. Hein. On va évidemment parler de plein de choses, de Twitter, de l'électrique. On va commencer par Bruno Le Maire, ce matin, dans quatre quotidiens économiques européens, qui s'inquiète de l'attitude, du comportement des Américains sur les subventions à leur industrie. D'abord, l'énergie n'est pas chère là-bas. Et ensuite, ils font des primes colossales pour l'implantation des sites industriels ou, par exemple, pour l'achat de le crédit d'impôt pour les véhicules électriques. Oui. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle guerre commerciale avec les Américains ?
Non, d'abord, Bruno Le Maire a totalement raison. C'est un sujet absolument essentiel. Évidemment, moi, je suis pas le commissaire à la concurrence ni au commerce. Je suis le commissaire au marché intérieur. Mais évidemment, j'ai tiré la sonnette d'alarme parce que je vois effectivement l'impact, notamment de cette fameuse IRA, Inflation Reduction Act, ouais, qui a été mis sur la table par les Américains. 367 milliards de dollars de subventions proposées dans des proportions absolument gigantesques, qui n'ont rien à voir avec ce que nous autorisons, nous, en Europe. Et donc, qui crée, évidemment, un véritable élément de distorsion de concurrence. J'en ai beaucoup parlé avec lui. Et donc, il a parfaitement
raison. On n'a pas resté les bras croisés, quand même.
Ah non, on n'a pas resté les bras croisés, croyez-moi. Parce qu'on voit on commence à voir les effets. Donc, il y a 15 jours, donc, on a créé on tirait la sonnette d'alarme, une task force, comme on dit dans notre jargon, donc à haut niveau entre la Maison Blanche et la Commission européenne, pour voir évidemment l'ensemble des ce qu'on appelle des irritants, des problèmes.
Ouais.
Donc il y en a 9 qui ont été vraiment listés. Ça a donné suite donc maintenant à une lettre écrite, donc qui est une lettre d'injonction, donc qui a été envoyée donc aux États-Unis avec des points très précis.
J'ai vu les Coréens et les Japonais font la même chose.
Bien sûr, avec des points très précis. Qui sont du reste, de notre avis, contraires aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, ou bien ils vont les régler, et on espère qu'ils vont les régler, donc c'est pour ça qu'il y a cette task force pour discuter, ou bien il faudra aller devant l'OMC et on va envisager évidemment des mesures de rétorsion.
Mais c'est quoi,
on peut
c'est
pas rester comme
porter
ça.
Plainte contre les États-Unis
c'est, encore une fois, c'est l'OMC, c'est ça, oui. Mais donc, on en est donc dans les démarches classiques, traditionnelles, donc on cascade, on le fait de façon vigoureuse et proportionnée, pour reprendre les termes du reste de Bruno Le Maire, il a raison. Et puis maintenant, on va vraiment aller au bout. Mais cette discussion, elle est extrêmement importante.
Hein. Est-ce qu'on va assez vite, Thierry Breton ? Parce que regardez, la semaine dernière, il y a le Suédois Northvolt qui a prévu de faire une usine en Allemagne et qui dit, moi, je vais aller aux États-Unis parce que les subventions, ils sont 30 à 40% supérieurs à celles que me donne l'Europe.
Oui, il y a même des cas où c'est 50, 60, 70%. Alors, j'ai des cas. Et c'est pour ça, encore une fois, que moi, commissaire au marché intérieur, j'ai été le premier à tirer immédiatement la sonnette d'alarme dès le mois d'août, lorsqu'on a vu que les Américains travaillaient à cet acte législatif. Et donc, c'est il y a 2 mois, donc il faut aller donc très vite, oui. Parce que deux mois, c'est bien, mais vous avez raison, il ne faut pas tarder.
Et surtout que sur l'industrie automobile électrique, c'est une urgence, hein, Laurent.
Oui, parce qu'il y a ce qu'on décide, il y a les relations commerciales, et puis est-ce qu'il y a ce qu'on décide, nous, la manière dont on s'organise sur notre marché intérieur, là, c'est peut-être plus votre domaine de compétence, est-ce qu'on a décidé pour les voitures électriques, à partir de 2035, plus de voitures neuves dans l'Union européenne. On sent que vous n'êtes pas totalement d'accord, quand même, avec cette décision, même si vous la respectez sur le plan démocratique. Avant d'en discuter, d'avoir votre avis, je voudrais vous faire écouter Carlos Tavares, il était avec nous, le patron Stellantis au Mondial de l'Auto, c'était il y a 10 jours.
L'Union européenne, elle a pris des décisions, nous pensons qu'elles sont dogmatiques, qu'elles manquent de pragmatisme, nous pensons qu'elles sont naïves et que l'approche stratégique n'a pas été à 360 degrés. Nous voyons que les décisions dogmatiques de l'Union européenne ont déroulé un tapis rouge devant les constructeurs chinois.
Vous êtes trop loin, ouais. Oui, il a raison.
Alors c'était quand ?
Il y a 10 jours. Salon de l'auto.
Ben voyez-vous, ça veut dire que M. Tavares a de la préscience, parce que on sait uniquement le résultat que jeudi dernier. Parce qu'il faut expliquer à tout le monde, je ne parle pas uniquement à M. Tavares, il est chef d'entreprise, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de bien regarder comment fonctionne notre démocratie. On est une grande démocratie. La décision définitive, elle a été prise en accord conjoint entre le Parlement, c'est pas l'Europe, c'est le Parlement européen qui représente le peuple, et l'unanimité de tous les États membres qui représentent les États. Quand a-t-elle été prise cette discussion ? Il y a eu des discussions intenses.
Il y a une semaine.
Jeudi dernier.
Ouais.
Donc c'était après ?
Après, oui. Ouais,
donc je ne sais pas comment ils connaissaient le résultat avant.
Ouais, parce qu'on se doutait quand même.
Mais non, personne ne peut se douter.
L'interdiction du moteur thermique en 2035.
Non, je vais vous dire. Il y a eu des discussions jusqu'à la dernière minute. Et c'est pour ça, ça sert à ça précisément les discussions, non pas avec la Commission, mais entre nos instances démocratiques. Ouais. On est une grande démocratie, cette décision elle est prise à l'unanimité par le peuple, représenté par le Parlement, et par l'ensemble des États unanimes, représentés par le Conseil. Ouais. C'est eux qui prennent la décision. Quelle décision ? Je voudrais aller au bout, ouais, si vous permettez. Quelles décisions ont-ils prises ? Précisément à la fin de discussions qui ont été très avancées, 2035, ça aurait pu être 2038, 2040, à l'époque où ils parlaient, on ne le savait pas, et ensuite, effectivement, une clause de revoyure, qui n'était pas prévue aujourd'hui, on avait pensé éventuellement 2028, et puis après 2027, qui finit à 2026, précisément ce fameux jeudi, où on va revoir, précisément, faire un point d'avancement. Alors maintenant, c'est moi qui vais m'en occuper pour réunir. Vous dites que je suis d'accord ou pas d'accord. Je respecte la démocratie et tous les acteurs.
Vous aviez des doutes comme Carlos Tavares ?
Non, ce n'est pas des doutes. Encore une fois, il n'y a pas d'avoir de doutes. On n'est pas là pour avoir des doutes. On est là pour faire et pour respecter la volonté des États et du peuple. C'est ça la démocratie.
Mais la clause de revoyure,
ça veut dire quoi ? C'est vrai que travailler dans une autocratie, c'est peut-être plus facile. Nous, c'est ce qui nous distingue. La clause de revoyure, c'est quelque chose que j'ai, moi, effectivement, de là où je suis, souhaité pour faire en sorte que. Qu'est-ce qui va se passer ? Et je l'ai dit du reste. Dès la décision prise jeudi, j'ai annoncé lundi après, c'est-à-dire trois jours plus tard, que j'allais réunir désormais l'ensemble des acteurs pour voir comment on se met en marche, précisément, pour voir comment on accroît notre production d'électricité. Il faudra 15 à 20% de plus d'électricité quand on sera tout électrique en 2035. Donc, comment on l'a fait ? Il faut évidemment qu'elle soit décarbonée. Comment on fait pour faire l'interconnexion ? Comment on fait pour accroître les bornes ? On a aujourd'hui 350 000 bornes, il en faudrait 7 millions. Oui, mais non, il en faudra 7 millions en 2035. Donc, tout ça, c'est un chantier que maintenant, évidemment, on va mettre en œuvre, on va lancer, y compris effectivement sur les moteurs. Et puis, je dis une chose aussi aux constructeurs, à tous les constructeurs. Dire qu'à partir de 2035, on ne vendra plus sur le continent européen que des voitures électriques, ça ne veut pas dire, et je le dis aussi à M. Tavares, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les moteurs thermiques. Le monde
c'est là où
va
c'est compliqué, en termes de stratégie et de lisibilité.
Et bon, pourquoi ? Parce que les Chinois peuvent le faire et nous, on ne peut pas le faire ? Ah bon, parce que les Chinois, ils peuvent faire du moteur thermique et des moteurs électriques et nous, on ne peut pas le faire. Bien sûr que
autres.
Si, mais il n'y a pas de visibilité. C'est les deux, on est encore une fois dans de la multitechnologie.
Le thermique pourquoi pour les autres.
Mais ce n'est pas pour les autres. C'est encore une fois qu'en Afrique, par exemple, bien sûr qu'on veut que tout le monde aille au tout électrique. On est 7,5 milliards d'habitants sur la planète, 450 millions en Europe. Eh bien, évidemment, il faut aussi accompagner les autres. Ils auront un temps plus lent parce qu'il y a moins de bornes électriques, parce qu'il y a moins d'électricité. Il faudra accompagner. Ces marchés continueront à exister. On va avoir des moteurs de plus en plus propres. Je vais présenter d'ici deux jours la nouvelle norme Euro 7 qui va faire qu'on aura les moteurs les plus propres du monde. Donc, bien sûr, ce sera pour nous jusqu'en 2035.
C'est dommage, 2035. Du coup, on ne pourra pas les utiliser sur l'européen.
Si, parce qu'on va les utiliser jusqu'en 2035. Et je tiens à dire qu'après ça, les voitures, durée de vie en moyenne 17 ans, ça veut dire qu'en 2050, on aura encore 20% du parc de voitures qui seront thermiques. Et évidemment, en Europe, elles sont plus propres. Mais vendons ce savoir-faire, ouais, évidemment, en dehors, parce que précisément, on en aura besoin.
C'est pourquoi faudrait-il hypocrisie de dire on vend plus de thermique en Europe en 2035, mais on en vendra partout ailleurs dans le monde.
Mais parce que les marchés sont là. Bien sûr, ce serait formidable si d'un seul coup, la planète entière pouvait passer au tout électrique. Sauf qu'en Afrique, il y a un Africain sur deux, hélas, notamment dans les villages, qui n'a jamais vu même une ampoule électrique. Donc comment on fait pour avoir... Il faut donc s'adapter, évidemment. Nous, évidemment, on fait ça parce qu'on est prêt à le faire. On va se donner les moyens d'être prêt. Mais, évidemment, pour les autres, le marché sera là. Donc oui, je les incite vraiment à continuer.
On enchaîne, bien évidemment, sur le dossier de l'énergie, du coût de l'énergie en Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On l'a, pour le coup, ce qui est un peu déprimant, c'est que les Européens n'arrivent pas à s'entendre. D'abord, sur quelle source d'énergie ? La France fait du nucléaire, l'Allemagne n'en fait pas. Sur le prix de l'énergie, on voulait un prix qui ressemble un peu à la solution espagnole. Les Allemands ne voulaient pas. On fait des achats groupés de gaz. 15% de nos achats, c'est pas ça qui va changer la face du monde. On va où sur l'Europe de l'énergie ?
Alors d'abord, d'où on part ? Parce qu'avant de dire on va où, d'où on part ? On part évidemment d'une situation où chaque État membre est le responsable intégral de son mix énergétique. Et c'est normal. Nous, par exemple, il est plutôt à base de nucléaire, on le sait, et de renouvelables. En Allemagne, c'est plutôt à base de gaz, on le sait. Donc chacun son mix, son histoire aussi. Il faut le respecter, c'est comme ça. Et donc à partir du moment où on part de ce mix, évidemment, il faut qu'on converge. C'est cette convergence. Elle est certes accélérée à cause de la guerre en Ukraine. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons eu maintenant une plateforme d'achat commun. Vous avez raison. J'entendais du reste, vous disiez finalement, c'est quand même le président de la République, Emmanuel Macron, qui a beaucoup poussé pour ça.
Ouais, mais c'est un petit cartel des consommateurs.
Non, mais attendez, c'est déjà énorme de pouvoir se mettre d'accord et d'avoir mis en ça. Et vous savez ce qui va se passer, Christophe Jacobizine ? À partir du moment où on dit qu'on fait 15%, on a un intérêt à le faire, donc on en fera plus, c'est 15% minimum. C'est pour avoir l'Europe, c'est aussi ça. Il faut avoir une incitation à le faire tout en respectant encore une fois les trajectoires des États. Donc le fait d'avoir mutualisé ça, ça nous permet de démarrer, d'accélérer évidemment, et de faire en sorte de se préparer pour passer l'hiver 2023, puisque c'est de ça dont il s'agit. Maintenant, le deuxième problème que vous posez, c'est le prix, effectivement, ouais, et le cap, comme on dit, sur les prix du gaz. Donc là, il y a évidemment différentes solutions qui ont été mises sur la table. Le Conseil a demandé à la Commission, donc, de revenir avec des propositions, soit par exemple un cap direct, soit un cap uniquement pour l'énergie, enfin le gaz qui sert à produire de l'électricité. On est en train d'y travailler, on va revenir très vite maintenant, dans le cadre de la réunion des ministres de l'énergie, pour répondre à cette solution. Le troisième point, c'est, on en revient du reste à la question précédente, c'est dire que nous serons en 2050 totalement décarbonés en Europe, ça veut dire qu'on sera une Europe quasiment toute électrique. Et donc ça veut dire, bien sûr, il y aura aussi l'hydrogène, mais l'hydrogène c'est aussi l'électricité, comme vous savez. Donc ça veut donc dire qu'il faut qu'on se mette maintenant tout de suite, et là on travaille maintenant en amont, on va proposer donc du reste les solutions d'ici 2 à 3 mois, pour dire qu'est-ce que ça veut dire que d'être un continent tout électrique, qu'est-ce que ça veut dire en termes de production, où faut-il les faire. Bien sûr, il faut qu'elles soient décarbonées, ça veut donc dire du nucléaire, et vous savez que je pousse beaucoup pour cette solution. Ça veut dire aussi, bien sûr, accélérer le renouvelable, ça veut dire, bien sûr, de l'interconnexion partout, ça veut dire évidemment du grid management pour gérer les pics. Tout ça, donc, est maintenant mis sur la table, et puis les investissements en amont, pour pouvoir, derrière, recalculer les bons coûts de l'énergie, notamment de l'électricité, par rapport à ces investissements gigantesques qui vont être réalisés en amont.
On voit à quel point c'est compliqué de se mettre d'accord entre Européens sur le plan de l'énergie. Quand vous voyez l'Allemagne avec son plan à 200 milliards, quand vous voyez Olaf Scholz, le chancelier allemand, aller tout seul en Chine, vous n'avez pas envie, ça ne vous donne pas envie de baisser les bras et vous dites franchement, on ne va pas y arriver. On n'arrive pas à s'entendre ensemble, ne serait-ce que sur des points qui sont fondamentaux pour l'avenir de nos économies. Et puis là, chacun fait cavalier seul.
Je ne suis pas du tout d'accord avec votre analyse. Je sais qu'on aime la prendre comme ça.
Il est allé tout seul quand même.
Oui, bien sûr qu'il est allé tout seul. Mais on va reprendre les deux points que vous avez évoqués, si vous le permettez. D'abord sur les 200 milliards. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut que les États puisse intervenir très rapidement, ça revient du reste à la discussion de tout à l'heure. Si jamais vous accompagnez, voire subventionnez, il faut avoir l'argent. Donc j'ai incité moi-même les États à intervenir très vite dans cette période de transition, dans les 5, 6, 8 mois qui viennent, pour précisément maintenir, bien sûr qu'ils ont raison. Et j'ai demandé à ce que tous les États le fassent. Le deuxième point, mais je voudrais aller au bout.
Mais le responsable point, du marché intérieur, on n'est pas en train de craindre des distorsions de concurrence.
C'est donc le deuxième point, merci de me le mettre sur le plateau, si je peux dire, me l'offrir sur le plateau. Bien sûr, il faut que ceci se fasse donc, de façon coordonnée, mais surtout, surtout, le vrai sujet, c'est que chaque État, c'est ça ce que j'ai souhaité, j'ai du reste écrit une tribune avec mon collègue Paolo Gentiloni, le commissaire à l'économie, en disant, ce que nous souhaitons, c'est que chaque État puisse avoir un même accès à l'endettement, parce que tout le monde va devoir s'endetter, au même taux d'intérêt, exactement comme on avait fait au début de la pandémie du Covid, où on avait fait, c'est non pas un endettement commun au niveau de l'Union, c'est un mécanisme qu'on avait appelé Shure, vous vous en souvenez, qui permettait aux États d'emprunter pour faire face à la subvention du chômage forcé, donc dans les mêmes conditions. En d'autres termes, faire en sorte que si vous avez 70% de dette, ou si vous avez 150% de dette, vous allez emprunter sur les marchés au même taux, on va garantir ce taux pour qu'il y ait l'uniformité et aller dans votre sens.
Les Allemands sont d'accord.
Eh bien, on a été mandaté, et j'en suis très heureux, puisque c'était une demande qu'on avait faite, on a été mandaté par le Conseil pour y répondre, et on est en train de le faire.
Encore une question, vous dites qu'on sera un continent 100% électrique en 2050, est-ce qu'il faut rouvrir des mines de lithium, pourquoi pas du gaz de schiste en Europe?
Alors d'abord, le lithium, certainement, ça c'est sûr. Il faut absolument, parce qu'on sait qu'il va falloir 15 fois plus de lithium pour atteindre notre objectif 2035. C'est ça aussi que je mets dans mon groupe de travail, de suivi. Hein. Tout ce qu'il faut comme matériaux, comme composants, parce que c'est très important. On ne va pas remplacer une dépendance, par exemple, aux énergies fossiles, à une dépendance aux matériaux rares. Donc bien sûr, s'il y a des mines, il faut les rouvrir, mais de façon évidemment propre, entre guillemets, c'est-à-dire avec nos technologies, avec notre respect de l'environnement et de la biodiversité. Et puis...
Pourquoi pas le schiste ?
Et puis, ça c'est un autre sujet, bien sûr. On importe du reste aujourd'hui, on importe du gaz de schiste, évidemment, des États-Unis. Mais là aussi, ça dépend évidemment. Le Texas, c'est pas le centre de la France. Donc, il faut évidemment voir ce qui se passe en ce qui concerne. C'est très important pour nous en Europe, le respect de la biodiversité et de l'environnement.
Il nous reste une minute pour parler du dossier Twitter. Vous êtes devenu quasiment le principal opposant d'Elon Musk.
Non,
c'est
pas
vous
du
qui
tout
lui
opposant.
Répondez directement.
Non, pas opposant. Je suis simplement son interlocuteur, puisque à partir du moment où il a racheté Twitter et qu'il souhaite, et on le comprend, préserver le marché européen qui est son premier marché, je lui dis que depuis que nous avons mis le DSA et le DMA en place, qui régulent, qui organisent maintenant l'espace informationnel, eh bien pour pouvoir continuer à offrir les services de Twitter, il faudra qu'il respecte la loi européenne, c'est désormais cette loi qui fait foi. Ça veut dire plus de modération, ça veut dire plus d'employés, ça veut dire liberté et totalement.
Ça n'a pas l'air d'être le projet.
Peut-être pour en dehors de l'Europe, mais en Europe, il le connaît puisque je suis venu lui en parler et il m'a dit du reste qu'il le soutenait à 100%. Ça veut dire aussi transparence sur les algorithmes.
J'ai une dernière question d'une auditrice et spectatrice, Edwige Chevrillon, qui regrette que vous n'ayez pas répondu à la question sur la distorsion de concurrence allemande.
Ah, sur la Chine.
Sur la Chine.
Non, sur les distorsions de concurrence aussi, les 200 milliards, le fait que ça rompt l'égalité entre industriels, les patrons qu'on reçoit sur ce plateau.
J'ai répondu en disant qu'il faut que tous les États aient la possibilité de faire pareil.
Donc d'emprunter, de faire de la dette.
Mais bien sûr, comme on a fait au début de la crise du Covid, c'est exactement.
C'est une réponse, non, pour rétablir la concurrence, de dire endettez-vous comme les Allemands.
Mais c'est exactement, mais pas comme les Allemands, c'est en fonction du besoin de vos entreprises. C'est encore une fois, en fonction du besoin de la compétitivité. Chaque État connaît les besoins de compétitivité. Il faut que chacun ait le même accès à l'endettement. Vous direz ça à votre auditrice, Madame Chevrillon.
Elle
réécoute bien.
C'est intéressant parce que c'est un changement complet de logiciel en Europe. Hein. On dit endettez-vous pour soutenir vos industries.
Oui, qu'est-ce que font les États-Unis? Ils s'endettent pour soutenir leur industrie parce qu'ils n'ont pas le premier dollar vaillant.
Ouais. Bon. Tous les dogmes sautent. Merci beaucoup Thierry Breton d'avoir été avec nous, commissaire européen au marché intérieur.